Bah, tout va bien alors.
My mom always said life was like a box of chocolates.
Cette année, j'ai vu des films extraordinaires qui m'ont.
You never know what you're gonna get.
Isn't it such a privilege, Meryl, just to be an actor?
Merci. On ne sera ni de passage, ni un effet de mode. On est appelé à se renouveler année après année, à s'agrandir. Merci à vous, les filles. Merci d'être là. Merci.
Les désaxés.
Yeah, it is. And we have to remind each other of the privilege and the responsibility.
You kick out and beat it, it'll never cover any of it. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream.
On peut passer des heures les yeux levés vers un écran de cinéma qui brille. On peut garder en tête pendant des jours, des mois, une vie entière, un film, une scène, une réplique, une lumière ou encore un sourire. Les histoires racontées et projetées sur les écrans de cinéma sont infinies. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Désaxés. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler cinéma pendant une heure. Comme chaque mardi, premier mardi du mois, nous sommes en direct. L'émission est rediffusée ce vendredi à 14h, toujours sur zaizai-radio.org. Petit tour de table, alors les amoureux de cinéma ce soir sont...
Pierre.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir Marlène.
Toujours fan de cinéma.
Ça n'a pas changé depuis la dernière fois, effectivement. Sinon, on ne serait pas là.
C'est mieux, effectivement.
C'est mieux, c'est mieux.
Bonsoir François.
Salut Marlène, ça va?
Oui, ça va très bien, merci.
Bon.
Donc, prêt à parler de quoi allons-nous parler, tiens?
Nous François, allons faire une petite rétrospective Quentin Dupieux et un blind test à la fin de l'émission.
Donc il faut rester jusqu'au bout pour jouer avec nous. Et Pierre, toi, tu vas parler ?
Un petit film de SF avec des vers géants, des sables, et puis du désert, et puis plein de trucs très très cool.
Est-ce que ça ne s'appellerait pas Dune ?
Un certain Dune, oui, effectivement. Oui.
C'est ça. Et puis ben, tout de suite, on va vous parler du FIFCA, qui est le Festival International du Film Court d'Angoulême. Ça se passe cette semaine, ça commence le 7.
Le 7, c'est ça, oui.
C'est jeudi et jusqu'à dimanche. Donc Adrien Vasque, que vous avez peut-être entendu dans l'émission, parce que parfois il est là avec nous, c'est aussi un passionné et il vient faire des analyses de films. Et Adrien, en fait, est devenu le directeur de ce festival. Il était auparavant bénévole et depuis quelques temps, il y a une nouvelle équipe avec... alors autrefois, c'était des étudiants de l'IUT d'Angoulême. Et puis maintenant, c'est une équipe d'étudiants, d'anciens. Des écoles de l'image de la ville, puisqu'il y a beaucoup d'écoles de l'image à Angoulême.
Oui.
Et donc, Adrien, bah, c'est pratique, on a pu avoir pas mal d'informations sur ce festival. Donc, le festival, il a une vingtaine d'années. Il a beaucoup évolué en 20 ans. Si vous y allez, donc ça se passe au cinéma de la Cité uniquement, donc dans un endroit unique. Donc ça dure 4 jours. Et pendant ces 4 jours, vous allez pouvoir regarder environ 60 films.
Sympa.
C'est
pas mal, hein. C'est pas mal quand même. Donc, ce sont des séances d'1h30. J'ai demandé à Adrien la durée des films. Donc, le plus court dure 2 minutes et le plus long dure 44 minutes. Voilà, donc un petit peu selon les séances dans lesquelles vous allez aller, il y aura différents films.
Et tout ça se passe au cinéma de la Cité. Je ne sais pas si tu l'as précisé.
Mais je l'ai précisé, mais tu peux.
Tu l'as précisé, voilà.
Mais tu as raison, Pierre, de le repréciser. C'est effectivement, je disais, dans un lieu unique, et c'est le cinéma de la Cité. Ouais. Qui est avenue de Cognac.
C'est ça.
À Angoulême. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, qu'il y a un prix du public qui va être mis à l'issue du festival des 4 jours. Il y a également un prix du jury. 2,50€ la séance.
Ça va.
Et
pas
ouais.
Très cher. C'est bien pour les étudiants.
Pour toutes les bourses, voilà. Voilà. C'est
et 9€ un pass pour voir des films en illimité pendant 4 jours. C'est plutôt pas mal. Hein, pour... Alors évidemment, je sais pas si on arrive à voir les 60 films, ça dépend comment on s'organise. C'est peut-être un petit peu difficile. Donc Adrien, il met un peu l'accent sur l'ambiance conviviale du festival, avec des films plutôt dynamiques, ludiques, voire très drôles, même si les sujets sont graves. Et puis vous pourrez rencontrer les réalisateurs, discuter avec eux. Ça, c'est peut-être quelque chose qui se faisait pas beaucoup avant. Et j'ai cru comprendre qu'ils insistaient là-dessus, qu'ils prenaient vraiment du temps entre les séances pour pour rencontrer les réals. Donc ça, c'est toujours, alors, toujours sympa.
Je peux faire un petit témoignage là-dessus. Donc quand je suis arrivé à Angoulême et qu'on m'a proposé de travailler pour la radio, on m'a proposé de couvrir justement le festival. Et c'est exactement ce qui m'a plu. C'est le contact direct avec le réalisateur. Le côté très dynamique. À l'époque, il y avait une petite soirée dans un des bars, le Bock'n'Roll, où il y avait un blind test. Un blind test sur les musiques de films.
Ah, mais c'est pour ça que ça t'a plu, François.
Et c'était, c'est là que c'était très sympa. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de faire des blind tests pour Radio
Zaza.
Plus ou moins, plus ou moins. En tout cas, c'est toujours très sympa de faire des blind tests.
C'est vrai. Et merci. Donc, le FIFCA.
Très bonne ambiance, ce festival.
Et donc, tu as vu qu'il y avait des films complètement différents, de l'animation, de la fiction.
Oui, oui, il y a tout un tas de types et de formats, de durée.
De thématiques aussi, hein, j'imagine, ouais.
Voilà. Et donc, en fait, Adrien nous a envoyé à tous les trois 5 films pour qu'on puisse regarder un petit peu, un tout petit bout de la programmation.
En avant-première, c'est quand même pas mal. Ouais.
Voilà, 5 films. Et pour qu'on vous donne envie ou pas, ça donne plutôt envie.
Oui, oui.
Plutôt, ouais.
C'est 5 films bien différents, à peu près de la même durée, là, pour le coup.
Il y en a un qui est un petit peu plus court, peut-être parce que c'est de l'animation aussi, effectivement.
Alors, est-ce qu'on peut déjà parler du film d'animation, peut-être, en premier ? Moi, j'ai trouvé très beau.
Oui, c'est un film d'animation. Alors, le titre ?
Le Parc aux Cerfs.
Le Parc aux Cerfs.
Je me trompe.
Oui. C'est un peu à l'esprit des films de Oslo, dans le graphisme. C'est très, très beau visuellement.
Comment tu pourrais le définir pour les personnes qui connaissent pas l'univers ?
En ombre chinoise et très coloré et en même temps en dithonie, je sais pas comment on peut dire, en camailleux de couleurs, quoi. Très 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 joli.
Assez poétique tout en étant assez sombre. Dans le souvenir que j'en ai, voilà, ça date un petit peu, mais tout de suite penser à Michel Oslo, effectivement, ces aplats de couleurs et ces Ça rend très, 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 très bien. Et l'une des réelles, je crois, vient d'Angoulême, d'ailleurs, de ce que m'a dit Adrien. Ouais.
Et ça dure 7 minutes. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a énormément de films d'animation qui sont produits, réalisés, créés à Angoulême.
Dans les écoles ou dans les studios, oui.
Donc moi, j'ai beaucoup aimé également. On parle de quel film ?
J'ai eu un petit coup de cœur pour un film québécois.
Faire un enfant,
voilà,
peut-être.
Faire un enfant, ouais. Voilà. Alors, bon, comme son titre l'indique, c'est un film qui raconte l'histoire d'un couple d'une trentaine d'années, j'ai envie de dire, qui essaie d'avoir un enfant et ils sont prêts à tout. En tout cas, à plusieurs essais. Et donc, c'est assez cru, mais c'est très drôle et très émouvant.
Une bonne dizaine d'essais, ils s'y prennent à plusieurs fois et à pas mal de tentatives, un peu par tous les moyens, effectivement. Ouais.
Et voilà, bon, le concept est assez simple, mais c'est très bien écrit, très bien joué. On s'attache tout de suite à ce couple qui est un peu hors des standards, j'ai envie de dire.
Un peu fantasque.
Et c'est vraiment tendre, quoi. On est avec eux. On est avec eux jusqu'au bout, sans mauvais jeu de mots.
Donc déjà, pour préciser un petit peu les durées, le parc au cerf, ça dure 7 minutes, et faire un enfant, 19 minutes.
19, ouais.
Donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est aussi voir qu'on peut raconter des histoires comme ça dans des temps complètement différents.
Différents, oui.
Ça, c'est intéressant.
Et toi, Marlène, c'était lequel que tu avais préféré ? Tu nous as parlé d'un film...
Alors, il y a un film complètement déjanté qui s'appelle Barrage.
Qui est aussi québécois.
Qui est aussi québécois. Et comme souvent, le cinéma québécois, moi j'adore parce que c'est déjanté. Et alors, c'est plutôt comme un petit peu un film d'horreur. Ça se passe dans un barrage électrique. Il y a des ouvriers là qui font une découverte macabre. Et puis, voilà, il y a des gens qui commencent à se transformer en zombies. Mais c'est à la fois, mais gore. J'ai tourné la tête de temps en temps et en même temps c'est très 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 drôle. Voilà, c'est vraiment,
plutôt morceau de bois, non ? C'est un peu une espèce d'ode à retour à la nature. Moi j'ai vu ça un peu comme ça en fait. Tout le monde se transforme un peu en...
C'est les zombies qui les espèces de zombies qui, quand ils attrapent quelqu'un, ils les transforment.
Ah oui, oui, donc, c'est ça.
Ouais. C'est vraiment les personnages sont vraiment des zombies, quoi. Puis c'est très gore dans le découpage des corps, les explosions, tout
un
ça.
Un peu série Z, un peu.
Avec tout le lourd. C'est ça, c'est que c'est vraiment, ils se prennent pas au sérieux. Donc ils le font à la fois très sérieusement et en même temps pas du tout.
Oui, parce
donc,
que c'est un très beau film esthétiquement.
Oui,
par
ouais, c'est ça.
L'esthétique,
voilà.
Ouais.
C'est ça, les images sont très belles, le montage est super. Et en même temps, il y a des gens qui hurlent, ça découpe, ça saigne. Donc moi, j'ai bien aimé. Et puis...
Très décalé, ouais, très... voilà, petit côté, bah, qui est toujours québécois, effectivement, c'est toujours... voilà.
Ah oui, ils se prennent vraiment pas... Ouais. Enfin, ils font sérieusement les choses, mais sans se prendre au sérieux. Et puis, alors, je suis pas sûre du titre...
Baladène.
Oui, c'est ça.
La promenade, oui.
La promenade,
ouais.
Donc là, c'est un livreur indien à vélo, qui est vraiment au bord de la crise de nerfs.
Uber Eats, style Uber Eats.
Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop de détails. C'est ça que moi, j'ai trouvé très fort dans ce petit film.
C'est un film suédois,
je crois. Hein, je pense. Ça parle suédois, en tout cas. Ouais. Ouais.
Alors, je ne sais pas, parce que moi, j'ai marqué Suisse-France, et effectivement, ça se passe en Suède, mais alors, voilà.
Non.
Est-ce que c'est la production? Est-ce que ça se passe?
C'est européen, c'est une problématique.
Voilà. On va tout dire ça.
Fait.
Ouais.
Tout à fait. Et donc, ce livreur à vélo craque et va livrer un couple dans une très très belle maison. Et il a un problème avec son vélo, sa chaîne. Et en fait, le propriétaire de la maison lui parle assez mal. Et le vendeur s'enferme dans la maison tout seul. Voilà. Et se met à table et le couple est à l'extérieur de la maison. Et ça,
il enferme effectivement ce couple à l'extérieur. Ouais.
Voilà. Et donc, sans révéler la suite, parce que c'est assez court, il fait 13 minutes celui-là, donc il faut quand même garder... Mais c'est vrai que le fait qu'il soit à l'intérieur, c'était vraiment très fort, c'est-à-dire qu'on voit toute sa vie, tout son stress, toute la difficulté de son travail, alors qu'à aucun moment on ne voit les images de son travail. Comme quoi, c'est assez fort, je pense, cette histoire de livreur, c'est devenu quelque chose aussi d'hyper présent et
oui, plus décalage.
Non, mais semi-invisible.
C'est ça, oui, des métiers un peu de l'ombre qui sont devenus indispensables, notamment en période de Covid. Hein, on a tous, plus ou moins, je pense, fait appel à un livreur à vélo à ces périodes-là. Sans trop finalement les reconnaître et les valoriser, alors juste valeur. Et ce qui est intéressant, bah, c'est le décalage entre ces deux mondes, hein. Lui qui est précaire, qui est obligé de faire ça pour vivre, et puis cette l'opulence de cette famille. Donc à la fois un côté décalé, mais en même temps un peu dramatique, politique, qui dénonce un peu. Il y a un côté dénonciateur,
Oui, mais peut-être. En même temps, c'est ça qui est bien, parce que moi, j'ai un peu de mal avec les films trop politiques. C'est ça que je trouve génial, c'est que ça parle de quelque chose, mais c'est aussi quelque part... Enfin, il est drôle, ce personnage, quoi. Terriblement désespéré, mais dans ce qu'il fait, c'est très drôle, quoi, en fait.
Ça reste humain, c'est pas... Ça reste très, très classique... sur les regards des uns par rapport aux autres. Mais c'est vraiment bien. Ouais.
Et voilà, est-ce qu'on a fait le tour des cinq... On remercie Adrien, au passage, de nous avoir fait passer ces films.
Cette petite sélection, il y a un film italien, me semble-t-il, qu'on n'a pas... L'anniversaire d'Enrico.
Oui.
L'anniversaire d'Enrico.
Il nous a moins marqué.
Visiblement.
Non, mais ce film, il est carrément étrange.
Je crois que j'ai pas tout compris. Tu peux, si tu y arrives.
Eh ben, en fait, parce que j'ai fait un petit peu de recherche. Ouais. Donc, c'est vraiment le réalisateur, qui s'appelle Enrico d'ailleurs.
D'accord.
Qui a mis en scène un souvenir de son enfance, qui est juste avant le passage de l'an 2000. Donc, il y en a peut-être qui ne connaissent pas ce passage, mais on était tous flippés parce que, soi-disant, que l'an 2000, tout allait bugger et tout ça.
C'est l'introduction du film.
Voilà, et donc il va à un anniversaire, et c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui se passe, mais cette atmosphère-là, moi j'ai pas trop compris le rapport entre le bug de l'an 2000 et l'anniversaire, c'est ça.
Et la grand-mère.
La grand-mère.
C'est un peu fin du monde, quoi. Ce que je me suis dit, voilà, c'est... Par contre, l'ambiance étrange... où tout est un peu glauque, un peu mystérieux, à chaque pas, à chaque regard de l'enfant, il y a tous ces regards de l'enfant aussi, on se demande ce qui va se passer. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, en fait.
Les relations entre les personnages, sont...
Ça ressemble un peu à une scène de long-métrage, en fait.
Ouais.
Ça aborde pas mal de sujets, et du coup, on ne sait pas trop où ça va. Mais par contre, c'est très bien filmé. très bien joué, le gamin est extraordinaire.
Oui.
Ouais, même la scène avec. Non, mais c'est terrible parce que ça m'a quand même. Il faut aller loin, ça m'a quand même fait penser à La Grande Bouffe à un moment donné. Donc,
ah oui, il faut aller loin.
Mais tu vois, ça, c'est le cerveau qui fait des nerfs. Non, mais tu sais, quand tous les enfants sont goûtés et la façon dont c'est filmé, bon, sauf que c'est pas. Voilà.
Et l'esthétique un peu datée, enfin voilà, c'est un film qui aurait pu être filmé, je sais pas, dans les.
Oui, exactement, à l'époque.
Hein, c'est ça, années 80, 90, un peu vintage, un peu. Voilà.
Ouais, très vintage.
Très, très, très vintage.
Bon, en tout cas, si vous voulez découvrir ces films plus tous les autres, c'est à partir de jeudi. Et pour avoir plus d'informations, pour avoir le programme complet, pour faire vos choix, pour voir comment ça se passe, tout ça, vous allez sur le site www.
Je crois que c'est filmcourangoulême, il me semble.
Je crois que c'est ça.
.fr.
Exactement, Pierre. www.filmcourangoulême.com.
.com.
Voilà.
International.
Bah, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. En écoutant la pause, eh bien, vous allez deviner le prochain thème, puisque c'est Pierre qui ensuite nous parlera d'un film. Si vous n'avez pas deviné de quelle musique il s'agit, c'est Pierre maintenant qui va vous guider.
Nous plonger dans cet univers effectivement est extrêmement foisonnant. Donc on écoutait un extrait de la deuxième partie de Dune de Denis Villeneuve, parce qu'il y en a eu d'autres bien avant. Alors de quoi ça cause ? Donc effectivement, c'est la suite directe de Dune, partie 1, sortie il y a à peu près 3 ans déjà. Alors c'est difficile hein, de parler de cette deuxième partie, sortie donc le 28 février, sans évoquer la première. Je vais essayer de faire un pitch, j'ai pas lu le livre, je préfère le préciser, donc je me contente de parler de ce que j'ai pu voir des deux parties. Donc Dune, ça nous raconte l'histoire de Paul Atreides, interprété donc par Timothée Chalamet, un jeune homme de haute lignée dont la famille, les Atreides, ou Atreides apparemment on dirait, puisque c'est un nom, grec, est amené donc à prendre le contrôle d'une des planètes sous le joug de l'Imperium, qui s'appelle donc Arrakis, ou Dune dans la langue des Fremen. Donc c'est une planète désertique qui renferme la ressource la plus précieuse au monde, de ce monde-là en tout cas, l'épice, qui permet notamment donc de voyager à travers la galaxie. Voilà, de ce que j'ai pu comprendre. Alors la première partie s'achève alors qu'une grande partie de la famille Atreide, ou Atreides donc, a été décimée par les Harkonnen, l'une des grandes familles qui régente également cet univers, et par la fuite de Paul et de sa mère dans le désert. Et donc ils vont y rencontrer les Fremen, qui est un peuple autochtone vivant sur cette planète. Et ils vont unir leur destin à ces fameux Fremen. Alors le film donc est adapté du très très dense ouvrage Dune de Frank Herbert, tellement qu'il était réputé inadaptable. Alors effectivement il y a eu la version de Lynch de 1984, avec notamment Sting d'ailleurs, dans le rôle de Fedr Rota Harkonnen, donc le neveu du baron du même nom. Il y a eu des séries de science-fiction qui ont été portées sur une chaîne de science-fiction dans les années 2000. Voilà, des séries. Et les dunes actuelles, donc suite 2021, la première partie, et la deuxième, 2024. Alors, j'ai vu une analyse sur net que je trouve assez juste, c'est qu'en fait, Villeneuve avait une double contrainte. C'était adapté donc ce roman qui était réputé inadaptable.
Villeneuve, le réalisateur.
Le réalisateur qui a fait notamment Premier Contact, Prisoners, Ennemi, Blade Runner 2049. Voilà, pour rester dans la SF. Donc cette double contrainte, donc essayer d'adapter le plus fidèlement possible ce matériau d'origine, très très dense.
Attends, excuse-moi, ouais. Je précise quand même parce que...
Oui.
SF, science-fiction.
Science-fiction, oui. Effectivement. Effectivement, tu fais bien de me reprendre. Donc, adapter ce livre qui est assez dense et en même temps en faire un divertissement grand public. C'est produit par la Warner, hein, quand même. Donc, voilà. Et donc, ne laisser personne de côté. Et d'où, notamment, peut-être le casting qui est assez mainstream. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, avec pas mal d'acteurs qu'on a pu voir dans des productions super-héroïques. Il y en a quelques-uns, donc Jason Momoa, entre autres, qu'on a pu voir dernièrement dans Aquaman, Fast and Furious. Dave Bautista, qui a fait notamment chez Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Zendaya dans Spider-Man. Josh Brolin, pareil aussi chez Marvel, qui faisait Thanos. Voilà, on le reconnaît pas trop avec le maquillage violet, c'est un peu compliqué. Ou Oscar Isaac, qu'on a pu voir donc dans l'univers de Star Wars. Ben, la dernière trilogie Star Wars de Disney. Donc, peut-être, voilà, que c'est la Warner qui a guidé les choix de casting, mais en tout cas, ça se pose comme ça. Alors, pour parler donc de l'univers, alors le premier film était vraiment, vraiment là pour poser le décor. Et voilà, tous les protagonistes, tout l'univers. Ce qui fait que c'est une exposition qui est assez lente, en tout cas, dans sa première partie. Le deuxième, ça monte un peu plus d'un cran en termes d'enjeux, et notamment l'aspect religieux qui est un peu plus abordé. C'est un livre qui traite beaucoup de spiritualité, le Dune d'Herbert, avec notamment donc le rôle de la mère de Paul, Jessica Atreides, Lady Jessica, comme on l'appelle, donc interprétée par Rebecca Ferguson, qui devient un peu plus essentielle à l'intrigue. Elle est assez effacée dans le premier. C'est une sœur de l'ordre Bene Gesserit. Est-ce que ça vous parle ?
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ?
Est-ce que ce nom vous...
Moi, j'ai vu le premier, là.
Ouais.
J'ai vu le premier, donc j'ai tout
qu'est-ce
découvert.
Qu'est-ce que toi, t'en as compris ?
Ne me demande pas de faire une analyse de Dune. Déjà, je me suis dit, il faudrait que je lise le livre quand même, parce que je trouve qu'il y a un classique comme ça, et puis que des films ont été faits à partir du livre, et surtout d'une œuvre comme ça, voilà. Parce que moi, j'ai vu le film, j'avais pas du tout envie de le voir. J'aime pas la science-fiction, et je Et donc, dimanche soir, j'en ai profité que le Dune 1 repassait à la télé.
Oui.
Ou passait, je sais pas.
C'était la première fois, je pense, qu'il passait. Ouais,
et comme toi, tu devais effectivement parler du Dune 2, je me suis dit, bon, je vais regarder. Là, je t'avoue que c'est un peu juste pour moi pour faire une analyse et faire des liens.
Alors, c'est assez... pour ceux qui connaîtraient pas du coup l'univers, qui n'ont pas vu les films, donc les Bene Gesserit, c'est un ordre matriarcal... religieux mais en même temps politique qui cherche un petit peu à influencer finalement les grandes familles ou autres dans le but de faire naître un élu finalement et je veux pas trop vous en parler, c'est un peu compliqué et donc interprété donc par Jessica Atreides et aussi Charlotte Rampling qui est un peu la mère supérieure. Et donc quoi, qui prend énormément du galon dans la première partie où les personnages sont assez froids. Elle est là un peu pour apporter ce côté émotionnel et je trouve l'évolution de ce personnage vraiment vraiment intéressant parce que là vraiment on sent qu'elle tire un peu les ficelles de tous les côtés. Enfin voilà.
C'est-à-dire que pour répondre à ta question, moi la mère, on sent qu'elle, enfin pour moi dans le premier de ce que j'ai vu, elle est toujours un peu en retrait,
oui.
Toujours discrète, mais on sent qu'elle a une place essentielle.
C'est ça.
Essentielle dans les choix, dans ce qui s'est passé avant, dans la direction que ça va prendre. Mais moi j'en suis là, je ne sais pas après.
Non, mais c'est bien résumé, peut-être mieux que ce que j'ai pu le résumer.
Et non, pas du tout.
Voilà, donc très très effacé, très très solennel, comme un peu l'ensemble de tous les personnages. En tout cas, dans le premier volet, c'est très noble, distant. Alors, c'est un peu le reproche qu'on a pu faire d'ailleurs à ce premier volet. Et à beaucoup de films de Villeneuve où les personnages sont assez stoïques, ne laissent rien transparaître. Donc là, elle joue un rôle effectivement un peu plus influent en cherchant à convaincre les Fremen que Paul est en fait l'élu. Voilà. À côté de ça, il y a d'autres personnages qui apportent un peu, un côté un peu plus jovial, on va dire, un peu plus pote, c'est des rôles de grands frères, donc notamment Jason Momoa et Josh Brolin qui sont là, les deux guerriers, les deux mentors un peu de Paul, qui sont là pour l'éduquer, pour lui apprendre à se battre, entre autres, qui sont un peu moins portés sur le cérémonial, du coup, qui sont un peu moins solennels, et qui marchent plutôt bien, ça colle assez bien à ces deux acteurs. Après en termes de réal, c'est assez typique de ce que Denis Villeneuve peut faire, hein, donc notamment dans Premier Contact et Blade Runner, avec une architecture vraiment très 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 brutaliste, quoi. C'est vraiment très très épuré. Quand on compare avec ce qu'a pu faire Lynch et ce qu'aurait dû faire Jodorowsky aussi dans les années 80, quelques années avant, c'est hyper hyper terne, hyper froid. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que ça se passe en grande partie dans un désert. Et
que c'est du sable, oui.
C'est du sable et que la chaleur de la planète Arrakis est censée être assez écrasante. Mais ça colle aussi pas mal avec les enjeux, du coup, effectivement. Et avec le côté solennel de tout cet univers. Niveau point noir, je trouvais que le rythme était peut-être un petit peu bâtard. Effectivement, ça prend beaucoup son temps. Enfin, Denis Villeneuve prend beaucoup, beaucoup son temps sur les scènes d'exposition. C'est très, très contemplatif, notamment le premier. Et puis, toutes les scènes d'action sont un peu rushées. J'ai pas l'impression que c'est ce qui l'intéresse le plus. Moi, je pense que c'est plus les relations entre personnages, toute l'intrigue.
Mais ça vient aussi de l'atmosphère du livre au départ.
Ouais.
C'est très lent, très...
Très descriptif. Ouais. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux aussi. Il y a beaucoup de passages très, très descriptifs. Ce qui fait que quand il y a des scènes d'action, notamment dans le deuxième, il y a une grosse scène d'action, de bataille. À la fin, elle est un peu mise sous le tapis, quoi. Donc c'est un peu le reproche que je pourrais lui faire. Mais globalement, ça reste au-dessus de tout ce qui peut se faire en termes de blockbuster... actuellement, quoi.
En tout cas, le premier, les images, elles sont magnifiques, ça c'est sûr.
Ouais.
Les images de dunes, justement, et du sable, et c'est très beau.
Bon, en termes de réal, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà.
François, toi, dunes? Non. Non. Moi, je me suis dit,
François est en train de mourir derrière son micro.
François est malade, faut le préciser.
Oui, voilà.
Il n'a personne, il n'y a pas eu d'attaque dans le studio. Tout va bien, mais il tousse, il a le droit. Merci
cette
Pierre
saison.
Pour cette.
Pas de soucis.
Cette. Voilà.
Je ne sais pas si j'étais très très clair dans tout ce que j'ai pu dire.
Mais si, mais... si, tu es clair, mais je pense que c'est. Est-ce qu'il est encore au cinéma?
Ah, bah, il est sorti il y a une semaine, hein, le 28 février. Je pense qu'il est parti pour durer. Donc, ouais.
Un certain temps. Ça va tellement vite maintenant. Voilà, c'est des gros titres comme ça qui ouais. restent, mais ça va quand même très très vite.
Bah, autant Godzilla, dont j'avais parlé la dernière fois, effectivement, était resté 2 semaines en salle pour le côté événementiel, mais là, oui, je pense que celui-là, voilà, il est parti pour durer.
Merci Pierre. Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu au Festival du film francophone d'Angoulême. Alors moi je prends un petit peu d'avance parce que c'est un film qui n'est pas encore sorti et
d'accord.
qui va sortir en avril prochain.
Avant première donc.
Voilà. Ouais. Donc je me suis dit tiens je vais parler de ce film comme ça les gens pourront prévoir, le noter s'ils en ont envie, si je leur donne envie. Donc ce film c'est Rosalie, il était dans la sélection donc du Festival francophone du film d'Angoulême en août dernier. Il a reçu le Valois de l'actrice, donc c'est Nadia Tereskiewicz, si je le dis bien, à peu près, qui a reçu ce Valois. Et ce film a aussi reçu le Valois de la meilleure musique de film. Donc le film sort en avril, ça je vous l'ai dit. Alors c'est un film qui se passe fin 1800. Rosalie, c'est une jeune femme, mais qui n'est pas comme les autres, puisqu'elle doit cacher une caractéristique physique. J'ai pas trop envie de vous le dire là, parce que moi j'aime bien découvrir les films. En même temps, je pense que sur l'affiche, ça se voit un petit peu et puis ça va être présenté. Mais moi je le dis pas. Donc elle a une caractéristique physique. Et donc il y a un tenancier de bar qui s'appelle Abel, qui est joué par Benoît Magimel, qui est endetté et qui va accepter de se marier avec elle pour la dot, mais lui ne connaît pas du tout ce secret physique très 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 embarrassant pour une femme. Donc c'est inspiré d'un fait d'époque. Alors moi j'ai vu des critiques comme ça où ils disaient que le personnage n'était pas très crédible et moi ce film il m'a vraiment touchée. D'abord c'est un film esthétiquement très beau. Ça se passe en Bretagne. Dès les premières minutes, moi, j'étais plongée dans une autre époque, un autre cadre, un lieu. Vraiment, j'y étais. Et je trouvais que c'était chaque plan était un peu comme un tableau. Fin 1800. Donc ça, c'était très, très, très beau. Et puis ensuite, je pensais que j'allais voir un film sur une femme qui passait son temps à se cacher à cause de ce détail physique et en fait pas du tout. Il y a vraiment un choix qui va être fait qui moi m'a saisi. Alors c'est peut-être ça qu'il y a eu des critiques pour dire que c'était pas crédible, mais enfin moi je m'en fous. Au contraire, j'ai dit waouh et j'avais envie d'y croire totalement. Et au final moi ce que j'ai ressenti c'est que c'est un film sur l'autre. Sur les apparences, sur le courage d'être soi, même si on correspond pas aux normes, sur le regard qu'on porte, et puis c'est un film sur l'amour naissant d'un homme qui est contrarié par la situation, et cet homme est bien en face de Nadia Tereskiewicz, c'est Benoît Magimel, qui est tellement, tellement magnifique. Moi, je suis un peu amoureuse de Benoît Magimel, hein, ça va peut-être s'entendre. Mais alors là, encore plus dans ce film où il est tellement silencieux, tellement contrarié d'avoir épousé cette femme voilà, qui peut peut-être être un peu repoussante ou choquante et au final il y a quand même un amour qui naît et je ne vous en dis pas plus pour que vous alliez voir ce film en avril.
Bien en tout cas.
C'est vrai, ça vous a donné. C'est vrai, ça vous a donné envie. Bon, ce sera, c'est peut-être bon. C'est bon. Moi, ça m'a touché. Et donc Nadia, je dis que le prénom, hein, a quand même eu le Valois de la meilleure actrice.
La meilleure actrice, ouais.
Je pense que j'aurais pu donner le Valois du meilleur film. On fait une petite pause musicale et puis pareil, petite pause
pour nous amener, voilà, pour nous amener les séances de rattrapage sur Quentin Dupieux.
François, est-ce qu'on peut dire que cette musique est très Quentin Dupieux ? J'inverse les deux.
Oui, alors sauf que c'est une musique qui n'a pas été composée par lui. En général, il fait plutôt les musiques lui-même via son pseudo Mister Oiseau. Mais là, donc c'est Tahiti Boy and the Palm Tree Family.
Voilà. Wow.
Et c'est tiré du film Wrong, qui est son troisième film. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de Quentin Dupieux? Parce que, tout d'abord, il y a Dali qui sort au cinéma, enfin, qui est au cinéma actuellement, qui est son dernier film. Et puis, parce qu'il y a aussi Yannick, qui est son film d'avant. Parce que c'est un réalisateur très prolixe.
Ah, oui, il en sort un tous les six mois, j'ai l'impression.
C'est pour ça qu'il faudrait lui dire de se calmer, parce que moi, je suis pas allé voir Dali, parce que j'étais resté sur Yannick, que j'ai adoré, j'attendais un petit peu.
Et Yannick est donc sur Canal+, actuellement. Et donc, il y a une rétrospective, sur France Télévisions de 6 films.
5 films. 5-6 films, ouais.
Qui va de Rubber de 2010 jusqu'à Au Poste de 2018. Donc voilà. Donc c'est difficile de parler de Quentin Dupieux parce que je pense qu'il ne veut surtout pas qu'on parle de ses films ou qu'on le théorise. Enfin bon, parce que c'est ça qui est plutôt amusant. C'est un réalisateur qui arrive à faire des films, moi je sais pas comment en fait, parce que
c'est des films concepts, c'est des concepts quoi. C'est
vu comme c'est difficile de ramener de l'argent, etc. Je vois pas. Il doit être très très persuasif pour eux. Ou alors tourner avec vraiment pas beaucoup d'argent et pour pouvoir faire ces films, parce que c'est des films qu'on peut pas monter. Enfin, je veux dire, sur le papier, c'est immontable, et pourtant ça donne une liberté parce que c'est toujours des concepts un peu fous.
Faut que tu précises pour les gens qui connaissent pas, quand tu dis c'est des films qu'on peut pas monter, c'est a priori financièrement quoi. C'est
oui, parce qu'il y a pas vraiment de début, il y a pas vraiment de fin, il y a pas toute l'arc narratif qu'on rencontre en général dans les films. Lui, ce qui l'intéresse, je pense, c'est de nous mettre dans une ambiance, et puis on fait notre propre film, ou alors on prend ce qui nous intéresse. Et donc il a toujours des histoires un peu abracadabrantesques. Là, par exemple, le dernier que j'ai vu, donc Wrong. C'est un type qui cherche son chien, et puis il se passe plein d'autres choses à côté, mais globalement c'est un gars qui cherche son chien, qui va être aidé par une sorte de maître sensei qui va lui mettre un détective pour l'aider à trouver son chien. Enfin bon, il y a son voisin qui part parce qu'il en a marre d'être lui-même, et puis il part jusque dans le désert. Enfin bon, voilà. Il y a d'autres films, par exemple justement Yannick, sans trop en dire, c'est une représentation de théâtre un peu foireuse. Et puis, il y a un spectateur qui s'y oppose en disant qu'il n'a pas payé pour voir ça. Donc, il propose de réécrire avec les... Enfin, il impose plutôt de réécrire avec les autres. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve ça assez marrant. Il faut être dans cet état d'esprit quand on voit un film de Quentin Dupieux. Il ne faut pas essayer de chercher avoir une réponse. Ou alors, il faut se faire sa propre réponse. Donc, moi, pour moi, c'est un peu... Il y a un peu le côté le mystère de David Lynch, mais sans l'horreur. J'essaie de le définir. Il y a un peu la folie des frères Cohen, mais sans les thématiques des frères Cohen. Le côté fauché de Mocky, je pense aussi, mais sans la politique, parce que la politique, ça n'intéresse pas du tout.
Avec la liberté, peut-être.
Voilà. Il y a l'absurde de Blier, mais sans le côté un peu X, quoi.
Trash.
Trash, voilà. Il est prolixe comme Lelouch, on l'a dit tout à l'heure, mais sans romantisme. Je crois qu'il n'est pas très romantique, ces films. Et puis, voilà, il a le côté quand même touche-à-tout de Charlie Chaplin, puisque, effectivement, il écrit ses scénarios, il les réalise, il les monte, et puis il fait la musique. Et la seule chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il n'est pas acteur dans ses films. Il pourrait, je pense, parce qu'il a aussi une très forte personnalité. Et voilà. Bon, moi, mon préféré dans tout ce lot, c'est Réalité, qui est un film de 2014 avec Alain Chabat. Alors, je trouve que c'est pas mal parce que c'est un peu entre ces deux périodes, sa période américaine et sa période française. Et en même temps, c'est un film qui fait très américain.
Qu'est-ce que t'entends par période
parce
américaine?
Parce que c'est-à-dire, à part Steak, qui est son premier film avec Eric et Ramsey, il a fait en fait tous ses premiers films. C'est les films qu'il a fait aux États-Unis parce qu'il a été connu d'abord. En faisant des clips.
En tant que Mister Oiseau, du
coup. Ouais, voilà, Mister Oiseau, puis je crois qu'il a fait aussi des clips pour d'autres, etc. Et donc, il s'est fait connaître avec une petite production avec Rubber, qui est son premier film, où c'est l'histoire d'un pneu tueur. Et après, une fois qu'il était connu, en tout cas en France, il est retourné en France faire d'autres films avec une esthétique plus éthérée, assez pâle, en fait. Reality avec Alain Chabat, où c'est justement un réalisateur qui, pour finir son film, cherche le cri parfait, et il n'y arrive pas. Et il part dans une réalité où on ne sait plus si c'est lui qui est le film, ou si le film qui l'a tourné est la réalité. Enfin, il y a un gros mélange à un moment donné où on ne sait plus où on se trouve.
Ce qui relève de la réalité, de la fiction.
Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est assez plaisant, c'est qu'on se laisse, à un moment donné, complètement perdre dans le flow. Et en même temps, c'est avec Alain Chabat, c'est bien joué, c'est rigolo. Pour moi, c'est le film que je vous conseille, donc qui est sur France Télévisions.
Alors moi, j'adore Quentin Dupieux. Mmh. Et par rapport à tout ce que tu dis, effectivement, je trouve que pour moi, il y a quand même un fil rouge par rapport à tous ces films, et t'en parles bien avec ce film-là, Réalité. Mais je trouve qu'on retrouve ça à chaque fois, c'est la mise en abîme. C'est-à-dire que pour moi, Quentin Dupieux, c'est à chaque fois une création différente, et c'est une création. Et moi, je pense qu'il y a quand même un début, un milieu, une fin. Mais c'est tellement une bulle à part, hein, tellement à chaque fois, c'est différent. Mais pour moi, à chaque fois, il y a une création d'un espace-temps, d'un endroit où on est ailleurs, et il y a toujours effectivement ce jeu entre la réalité, parce qu'avec Yannick, c'est pareil.
Oui, bien sûr.
À un moment donné, il filme carrément du fond, derrière les spectateurs. C'est-à-dire qu'on a la scène de théâtre avec des acteurs là, un peu bizarres, un peu mauvais. On a Yannick, et puis il y a les spectateurs. Et puis il y a nous-mêmes, spectateurs, en train de regarder tout ça. Et dans tous ces films, à chaque fois, il y a tous ces niveaux de perception et de réalité... qui est poussé à l'extrême là dans je me souviens plus du titre, c'est encore avec Chabat d'ailleurs, dans la maison où il passe d'un étage à l'autre et
incroyable
mais vrai, ouais.
Ça je l'ai pas vu
d'accord. Ah ouais, mais c'est fou quoi, cette abstraction du temps
et c'est vrai que ce qu'il pose au début, c'est pas ce qui l'intéresse en fait, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour entrer vers autre chose, et c'est vrai que ça c'est intéressant comme tu dis, c'est à tiroir un petit peu quoi, c'est
ouais, c'est fou d'arriver à faire ça, d'être à un moment donné vraiment tu c'est ce que tu dis, c'est pas l'intention de départ, enfin on sait pas où ça va,
ça et digresse tout... beaucoup ouais, effectivement j'ai l'impression ouais. Bon, moi le seul que j'ai vu c'est Au Poste, et c'est l'impression que j'ai eu il y a un élément qui apparaît, du coup les personnages rebondissent dessus,
mais et... mais tout est cohérent, je veux dire ouais. C'est qu'ils créent, enfin c'est pas au hasard quoi, c'est vraiment et c'est fou d'arriver à créer cette bulle, ouais, je sais pas comment appeler ça, mais une bulle une bulle d'ailleurs.
Un rêve éveillé.
Ouais, parce que c'est dur d'arriver à perdre un spectateur à ce point-là. C'est super difficile. Tu peux l'emmener dans une autre histoire, mais d'arriver à pour moi, vraiment à créer un autre univers, quoi.
Ouais.
Et c'est pas, justement, c'est pas comme Dune c'est de la science-fiction et t'es dans un autre univers. Mais tu le sais encore, Quentin Dupieux, ouais, c'est la vraie science-fiction, quoi. Tu sais pas du tout, à un moment donné, tu te dis waouh.
Mais il y a l'irruption de. Ouais, c'est de la. Absurde, on se demande, mais est-ce que ça se passe bien dans...
La question, c'est ça, c'est la question de la réalité.
Ouais.
C'est quoi la réalité? Et donc, on plonge. Moi, je plonge avec bonheur. Et il y a tout. Et l'émotion, elle. On pourrait penser qu'il n'y a pas d'émotion aussi. Et en fait. L'émotion, elle arrive toujours à un moment. Il y a un moment où il y a une émotion qui arrive et c'est un drôle de tricotage.
En tout cas, ça doit être un plaisir pour les acteurs parce qu'il arrive à chaque fois à embarquer Jean Dujardin,
Alain Chabat. Il y a beaucoup de beau monde. Hein, ouais.
Ouais, toujours du très beau monde.
Benoît Magimel.
Oui. Effectivement. Et donc, je crois qu'il ne va pas s'arrêter parce que j'ai vu sur sa page Wikipédia qu'il avait deux projets en cours. Donc, je pense qu'il ne va pas s'arrêter de sitôt. On verra bien.
Bah moi, je vais aller voir, j'attends un petit peu, parce que vraiment, quand j'ai vu qu'il sortait le film d'Ali, c'était pas longtemps après Yannick, j'étais presque, c'était très bizarre, c'était, je disais, ah non, j'avais envie de rester encore un peu avec Yannick de Quentin Dupieux dans ma tête.
Merci. À découvrir, en tout cas.
Ouais. Merci, François.
Bah, je vous en prie.
On enchaîne avec le blind test.
Ah oui, alors, cette fois-ci, je me suis dit, j'en ai marre de la pluie. On va faire un blind test comédie musicale, un petit peu joyeux.
Ça a l'air de
s'être
calmé, là.
Oui, enfin bon, je crois que ça se calme définitivement.
Ça va pas durer, je pense.
Je crois que ça se calme définitivement.
Ouais. Ah, c'est sûr.
Donc, je vous propose une dizaine de titres. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais allons-y.
Allez, alors.
On arrive quand même à reconnaître le.
C'est du Bollywood, ça,
voilà,
c'est
ça. Ça,
c'est clairement l'ambiance. Après, ouais.
Alors, je crois que c'est peut-être même le seul film qui a dû percer jusqu'en Europe, en fait. Hein.
Pure comédie musicale, alors.
C'est une pure comédie musicale,
ouais.
Qui est basée effectivement sur tous les. Sur les mêmes schémas de tous les films de Bollywood.
Ah.
Et ça s'appelle Devdas. C'est un film de 2002 que je vous conseille si vous avez l'occasion. C'est une histoire d'amour, hein, comme. Les Indiens savent bien le faire. Et d'ailleurs, je vais vous épargner le casting, etc., parce que mes ancêtres indiens vont se retourner. Sinon. Donc, mais en tout cas, c'est un
très... Quoi, tu sais pas prononcer les noms?
Bah non, parce que
François.
Et c'est un très beau film. Et en fait, il y a plein de Devdas en Inde. En fait, ils font plein de fois ce film, comme si c'était le conte de Monte Cristo pour nous, quoi. En fait, enfin, ce film a été fait plein de fois. Et celui qui est arrivé jusqu'en Europe ou en Occident, en tout cas, c'est celui de 2002, Devdas. Voilà.
Ok.
Cela va être plus simple.
Cabaret.
Voilà.
Tu l'avais déjà passé, je crois, celui-là.
Bah, je sais pas. Ah, peut-être.
Ouais. Ah, lors de l'émission Blind Test.
Je sais plus.
Je crois.
Ouais. En tout cas, donc, c'est Welcome.
Oui.
C'est de 1972, un film de Bob Fosse avec Liza Minnelli. On peut passer à l'autre.
Je suis largué, hein. Non.
Vous pouvez laisser un peu parce que la musique est sympa. Marlène, t'as l'air de chercher.
Oui, ça, parce que c'est, mais je. Ça m'a paru évident au départ et puis ensuite j'ai perdu. Donc.
Alors, ça, c'est. Celui-là, c'est la version de 2007. C'est un remake. Et c'est Airspray.
Airspray. Ah ouais, d'accord.
Film de Adam Shankman avec Zac Efron. John Travolta qui joue le rôle.
Ah, mais ça, j'allais dire John Travolta.
Oui,
qui joue
le rôle de la maman. Michelle Pfeiffer et Christopher Walken. Un très bon film aussi sur l'histoire d'une fille qui veut être star mais qui est un peu ronde, quoi. Donc, c'est pas si facile. Et je crois que. Elle tombe amoureuse de Zac Efron et lui veut l'aider. Enfin bon, c'est très très beau, très beau film.
On continue à jouer on avec ceux qui nous écoutent. Hein.
Ouais.
On a des enfants dans le studio qui ont envie de nous aider, je sens. Now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of The Cell Block Tango. Faudrait que tu nous donnes le thème quand même la prochaine fois qu'on puisse réviser un peu.
Bah, comédie musicale, hein, du coup.
Mais... Ah, mais si je vous donne le thème, ça va être facile.
Non, parce qu'il y a tellement
de films qu'on puisse réviser avant. Ouais. Ouais, un petit indice. Alors là, je.
C'est un film de 2002 de Rob Marshall. Avec Renée Zellweger et Catherine Zeta-Jones, c'est Rechargé. Ça vous dit rien ? C'est l'histoire. C'est une ville aux États-Unis.
Chicago.
Voilà.
Oui, c'est... Non, mais ça, voilà, non, mais c'était en train de là s'avancer la musique. Et,
c'est aussi un remake, du coup, non ?
Oui, de toute façon, c'est. Les...
C'est que des.
C'est les...
D'accord.
Non, mais
ouais.
C'est les comédies musicales qui.
Non, mais c'est vrai que le début, ça me disait rien du tout. Et puis.
Ouais, c'est ça, oui, d'accord. Le nom me cause, ouais, effectivement.
Mais c'est bien parce que ça laisse le temps à ceux qui nous écoutent de trouver.
Alors, celui d'après, il est assez connu, mais je n'ai pas pris forcément la chanson la plus connue.
Ah, oh, merci. The most beautiful song I ever heard. Maria. Si, Maria, quand même.
West Side Story.
Voilà, merci.
Ouais, ça serait bon.
Oui.
C'est rapide. Hein. Robert, pardon. Donc, c'est la première version.
La première version oui.
Robert Wise et Jerome Robbins, avec Natalie Wood et Richard Bemmer. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Allez, on peut continuer. Ça aussi, c'est un classique. Si vous...
Les demoiselles de Rochefort.
Oui. Alors du coup, alors je vais faire travailler un peu.
On est allé trop vite.
Quel réalisateur, quel acteur, actrice
Michel Legrand.
Non,
c'est la musique.
Non, c'est la musique. Ça. C'est le mari d'Agnès Varda. Et voilà, mais je sais, hein, mais alors on va commencer par Catherine Deneuve et sa sœur.
Françoise.
D'Orléac, c'est ça. Et Jacques Demy.
Oh. Film de 1967.
Et Marc qui nous soufflerait.
Il y a Jacques Perrin.
Ah non, du donc.
Si, si, il était en train de.
Jacques Perrin, Daniel Darieux, Michel Piccoli et Jane Kelly.
Okay. Et Jacques Perrin, oui, Jane Kelly, ouais. Jacques Perrin, tout joli. Et film qui a été tourné pas loin de chez nous, à Rochefort.
Voilà.
C'est La La Land, ça, non?
Oui.
Ouais. Pardon, j'ai dû aller trop loin. Non, mais quand je reconnais, je...
Ah bah.
C'est notre chouchou, on a cité trois ou quatre fois. Le...
J'ai voulu, voilà, laisser la musique. On va laisser la musique.
Donc c'est un film de 2016,
Damien Chazelle.
Avec Ryan Gosling et Emma Stone. On a le temps encore d'en faire un?
Bien sûr, oui.
Ah, il nous reste...
Même deux.
Moi, j'en ai trois, il m'en reste trois.
3 minutes, ouais. So, may we start?
Ne serait-ce pas Annette,
tout à fait,
de Léos Carax.
Voilà, un excellent film de 2021, donc très récent, avec
du très beau monde, avec Adam Driver, avec Marion Cotillard. Oui, c'est ça. Ouais.
Et la musique est de The Sparks.
The Sparks. Bon. Ouais.
Voilà. Et allez, un dernier, une Palme d'Or pour terminer. Quand vous allez entendre la voix.
C'est Björk.
C'est le seul film où elle a joué, je pense.
Mais c'est ouais. Lars von Trier. Mais je retrouve plus le titre. Je vois le film, je vois Björk, je vois.
Mais pas le nom, du coup. Ouais, non, là, je peux pas t'aider. Désolé.
Alors, c'est Dancer in the Dark.
Ah, Dancer in the Dark, ouais.
Un film de 2000. Il a eu la Palme d'Or et je crois qu'elle a eu le prix d'interprétation à Cannes. Un bon film.
Merci François pour...
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ce blind test, le prochain blind test, le mois prochain. Et envoyez-nous des petits messages.
Alors je donnerai un indice, parce qu'il faut. Enfin, c'est difficile parce que si je vous dis c'est ce thème-là, vous allez chercher.
On va c'est faire nos petites recherches.
Et surtout, moi, je pense aux gens qui nous écoutent. Envoyez-nous des petits messages et sur le site internet de la radio pour nous dire si vous trouvez ou envoyez des propositions. Merci Pierre.
Merci Marlène.
Pour toutes ces informations. Merci François.
Merci à toi.
On va vous souhaiter une bonne soirée. L'émission est rediffusée vendredi à 14h. Dites-le à vos amis sur zaizai-radio.org et allez au cinéma si vous en avez envie, si on vous a donné envie surtout.
Tu la connais, l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages? Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète.